Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Je vous propose ce matin que nous fassions une lecture. À vrai dire, deux courts textes que nous allons lire dans... Le premier dans le livre de l'Ecclésiaste, si vous voulez bien. Ecclésiaste, chapitre 7. Alors, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. En version moderne, je vous la... transmettre parce que j'aime bien faire des comparaisons, regarder dans différentes traductions et versions. C'est traduit de cette manière, il est préférable de terminer une affaire que de la commencer. Et puis la suite, mieux vaut être patient qu'orgueilleux. Deuxième lecture, si vous voulez bien, nous allons lire dans le psaume 51, verset 13. Le psaume 51, c'est un psaume de David, il l'a écrit dans un moment de grande détresse, de grande difficulté, hein, et de repentir aussi, parce qu'on peut dire que c'est le psaume de la repentance. Et au verset 13, il est dit ceci, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Et c'est sur ce sujet que j'aimerais que nous parlions ce matin, que nous méditions. Autour d'un personnage de la Bible qui a été un personnage important dans l'histoire d'Israël, c'est le roi Saül. Vous savez que ce roi a été le premier roi d'Israël. Et j'aimerais justement autour de sa vie de croyant, d'un homme engagé dans la volonté de Dieu, enfin selon l'appel de Dieu, et de considérer ce qui a été finalement son cheminement. Et on peut dire que le plus important, c'est pas commencer une affaire, c'est de la terminer. Et je pense que nous avons une leçon. Les uns et les autres, c'est un rappel, c'est une exhortation pour les uns et les autres à considérer eh bien, notre vie chrétienne, l'appel que Dieu nous a adressé, et avec sa grâce, d'aller jusqu'au bout. Oh, des Saül, il y en a eu d'autres. Hein. Salomon aussi avait bien commencé. Et puis, bien d'autres personnages. Il y a eu des hommes qui sont allés jusqu'au bout, fort heureusement d'ailleurs, et certainement un grand nombre. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu d'accrochage dans leur vie, qu'il n'y a pas eu de difficultés, même de péchés, mais ce sont des hommes qui ont su se rattraper à temps, ou qui ont su se placer à temps devant le Seigneur. Alors, en ce qui concerne Saül, comme David l'exprimera, mais ne me retire pas ton Esprit Saint, parce que si l'Esprit se retire de nos vies, eh bien, que reste-t-il ? Une condition qui n'est certainement pas enviable et que nous avons certainement dû, que nous voulons repousser et rejeter naturellement. Dans les explications qui nous sont données dans l'Écriture sainte, Saül était un beau jeune homme. Il dépassait d'une tête tous les autres. Alors il était grand, il était beau, il était brave, il était roi par la volonté de Dieu et par la voix du peuple, parce que je crois qu'il y avait les deux naturellement. Et nous pouvons considérer que ses débuts ont été glorieux. Mais pour Saül, il peut dire, quelle triste fin pour ce personnage. C'est vrai que ça a été une triste fin. Excusez, je ferme un petit peu parce que... Voilà, comme ça. Excusez-moi. C'était une décadence, c'est vrai, qui nous inspire et qui, non pas doit nous amener à vivre dans la hantise et de vivre traumatisé hein, ce matin en tant que chrétien, mais de dire, Seigneur, garde-moi et ne me retire pas ton Esprit Saint. Donne-moi d'être fidèle. C'est ça ce que je veux dire. Hein. Je ne veux pas que ce matin, des frères et des sœurs qui marchent avec le Seigneur et qui ont une conscience délicate, ressortent en disant, ben moi je suis malade d'avoir entendu ce que j'ai entendu. Non, je pense que c'est une exhortation à nous tenir les uns et les autres et de dire, Seigneur, écoute, hein, tu m'as appelé, tu m'as sauvé, tu m'as donné la grâce la plus merveilleuse qui soit, et bien donne-moi d'aller jusqu'au bout. Donne-moi ta grâce. Puis de continuer sereinement. Nous voyons que Il finit renié par Samuel, et pourtant Samuel, c'était un grand personnage, et je crois que Samuel aimait Saül, et Saül aimait Samuel, le prophète. Et le prophète en éprouvera un immense chagrin. Premier roi d'Israël, et voilà que ce roi va devenir un mauvais roi, un mauvais homme, on peut dire ça. Il est rejeté par Dieu, il est rongé par la jalousie, il est vaincu par les Philistins, il perdra dans un même jour ses trois fils sur la montagne de Gibeon. Il est désespéré pour avoir eu commerce avec la magie. Parce qu'il faut le dire aussi, ça a été aussi une des caractéristiques de la fin de sa vie. Et dans son désarroi le plus profond, l'homme de Dieu qui est Saül, se jettera sur son péché et se tuera. Quel triste programme! Et je le répète ce matin, je pense que ce n'est pas la fin des chrétiens. Hein? Mais nous devons dire, Seigneur, inspire-moi ta grâce. Donne-moi de bons sentiments dans mon cœur. Donne-moi d'être humble. Donne-moi de marcher modestement. Donne-moi de rester toujours petit à mes propres yeux. Alors que s'est-il passé entre le commencement et cette fin pitoyable? Nous l'avons lu, hein? Ce n'est pas le tout de commencer, mais c'est de finir. Il y a deux mots qui expliquent le drame de Saül. C'est d'abord la désobéissance qui est un péché. On le sait, ça, la Bible nous le dit. Et Dieu la comparera autant à la magie qu'à la divination. En chapitre 15, vous pourrez revoir dans 1 Samuel. Et puis, il y a la désobéissance, mais il s'ajoute à cela la dissimulation. La dissimulation qui est un vice. Je dis autant la désobéissance est un péché que la dissimulation est un vice. Parce qu'elle est un calcul. Nous pouvons tous faire des erreurs, c'est vrai. Mais la dissimulation dont il nous est parlé dans ce que nous allons voir, c'est un vice parce que c'est un calcul, c'est l'attitude d'une âme qui cherche ses aspirations auprès de celui qui, pour mieux tromper, se déguise en ange de lumière. Et vous avez compris qui? Vous savez de qui je veux parler. On ne cherche plus à ce moment-là notre inspiration auprès de Dieu et du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a perdu le Saint-Esprit. Mais il a cherché, peut-être sans le savoir, mais il était mu par des choses à l'intérieur de lui-même, qui finalement, au lieu de le mettre en contact avec Dieu, l'a mis en contact avec l'ennemi de Dieu et son ennemi. Pire que les Philistins et les Syriens réunis, hein, c'est-à-dire le diable. D'ailleurs, Jésus dira du diable dans Jean chapitre 8, verset 44, « Il est menteur et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Et je crois qu'à partir du moment où Saül a commencé à glisser sur cette mauvaise pente, d'abord de la désobéissance, mais après de la dissimulation, il a continué finalement. Et il s'est lamentablement écrasé, emporté par finalement celui qui était devenu son inspirateur dans tous les temps, dans tous les moments de sa vie. Le drame de Saül a été d'attirer à lui, parce que c'est ça le problème, d'attirer à lui, à sa gloire, à son utilité, tous les avantages. Et c'est peu dire, il était déjà roi. Il aurait été manant. On aurait pu penser qu'il voulait peut-être avoir une petite place au soleil. Mais il était roi d'Israël. Et il a tellement fardé sa vie, si vous me permettez, il a maquillé, hein, comme on maquille un visage, mais il a tellement maquillé sa vie, quelque part, sa vie morale en particulier, dans l'unique but de réussir, en tout, partout et surtout. Il se dit, moi je suis le roi, alors donc de toute façon parce que je suis le roi, je peux me permettre tout ce que je veux. Mais nous voyons que sa comédie, puisqu'il s'est joué la comédie à lui-même, et c'est ça justement le drame, c'est qu'il y avait certainement bien des gens en Israël qui avaient vu, excusez-moi entre guillemets, son cinéma, mais lui ne le voyait pas. Il vivait, il faisait, il se comportait pour ramener tout à lui à sa gloire. Et nous voyons que cette comédie a pris fin après 40 ans de règne. C'est quand même pas une petite affaire. Moi, je plains le peuple. Quand on voit que quand un peuple doit supporter 40 ans un roi ou je ne sais quoi, un dictateur, comme c'est arrivé, hein, je pense à des dictateurs comme Staline, Hitler, Ceausescu et des choses comme ça. Quelle catastrophe pour le peuple! Et ça peut être aussi vrai quelquefois dans d'autres situations. J'ose peut-être ne pas le penser en ce qui concerne une église. Mais il y a eu des rois en Israël qui ont régné extrêmement longtemps, et on peut parler des rois fous. Des rois qui n'étaient plus dans la note et qui n'étaient plus dans la pensée de Dieu, qui avaient vraiment perdu l'esprit. J'ai à cette pensée l'histoire de Manassé, par exemple. Mais cette comédie, est tombée au moment où le rideau s'étirait. Et elle s'étirait par une sinistre nuit dans la maison d'une magicienne. Et c'était finalement, là, en quelque sorte, le point final de ce roi qui, et nous allons le voir maintenant, avait si bien commencé. Si vous voulez, on va ouvrir notre Bible et on va la reprendre à plusieurs endroits de la vie de... Ça, c'était une introduction. Perdre l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Mais commençons par le meilleur pour Saül. Dans 1 Samuel chapitre 10, quelques versets que nous allons lire, que je vais lire avec vous. Verset 1er, 1 Samuel 10, verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. C'était un jeune homme, tout jeune homme. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin, à Tselsac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine pour vous, et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront deux pains, que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin et de la flûte et de la harpe, en prophétisant sur eux. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu voudras faire, car Dieu est avec toi, puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibea, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, « Qu'est-il arrivé au fils de Kis ?» À Saül. Je trouve que ce texte est formidable pour, nous montrer toute la grâce et la bonté de Dieu envers son peuple et envers un homme qu'il choisit. C'est le prophète Samuel qui va avoir l'insigne honneur de mettre en place le premier roi donné à la nation d'Israël. Il s'approche de lui, il oint d'huile et... En lui donnant un baiser, il lui dit maintenant, tu es le roi d'Israël. Tu es le roi qui va régner sur l'héritage de Dieu. Et nous continuons dans ce qui nous est rapporté. Il nous est dit qu'après avoir reçu l'onction royale, le choix de Dieu se portant sur lui, il va y avoir toutes sortes de signes que le prophète lui a dit. Pour lui montrer que finalement, Dieu réellement est avec lui. Il rentrera dans la ville, et à ce moment-là, il va rencontrer une troupe d'hommes qui prophétisent au son de la musique. Le prophète lui prévient que l'Esprit de Dieu va le revêtir, il te saisira, et Dieu va prophétiser avec lui, avec eux. Un roi n'est pas un prophète, mais là, il va y avoir une onction particulière avec l'accompagnement de la prophétie. Tu seras changé en un autre homme, lui dit le prophète. Et il va y avoir donc toute une suite en lui précisant, sache maintenant, puisque Saül est un jeune homme et il est très timide, que Dieu est avec lui. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui va être déterminant dans ces paroles que nous avons lues pour tout le règne et pour toute la vie de Saül. Cette petite chose que nous pourrions dire un ordre anodin. Et là, c'est le premier test pour savoir s'il va passer l'examen ou s'il ne le passera pas. Écoutez bien. « Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et vois-je, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. » Et le prophète lui recommande ce qui n'est peut-être, qui est peut-être peu de choses, mais qui va être en quelque sorte, eh bien, une chose essentielle aux yeux de Dieu. Il lui dit « Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire à ce moment-là. » Vous vous rendez compte, un roi qui reçoit des ordres? Mais ce n'est pas les ordres d'un homme, fût-il prophète, c'est un ordre de Dieu. Tu attendras 7 jours. En d'autres termes, il y a un mot qui caractérise ce que Dieu réclame à Saül en la circonstance, eh bien c'est l'attente. Attendre. Savoir attendre. Et le miracle de Dieu nous est dépeint après avoir reçu ce commandement de Dieu. Il nous est dit que dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ses signes s'accomplirent le même jour. Vous remarquez avec moi? Il va, puisqu'il vient de recevoir l'onction royale, mais ce n'est pas seulement l'onction royale, c'est l'Esprit de Dieu qui vient sur lui. Il prophétise et à ce moment-là, Dieu lui donne un autre cœur, un cœur nouveau. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Je crois que Saül, à partir de ce moment-là, est un homme qui va se démarquer, non en raison de sa position de souverain, ce qui n'est pas peu de choses, mais surtout des choses qui ne se voient pas, mais qui vont normalement se révéler. Eh bien, c'est un esprit nouveau, un cœur nouveau. L'Esprit de Dieu le saisit, ça nous est redit dans le verset 10, et il prophétisait au milieu des prophètes. Et il nous est même dit que le témoignage que l'on rendait de Saül, que tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et ils s'interrogeaient en disant « Mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Et là, c'était un signe patent qu'il s'était passé quelque chose dans sa vie. Et que ce qui s'était passé, ce n'était pas quelque chose d'humain, c'était quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de divin, choisi par Dieu. Ça me fait penser à cette parole que Jésus dira à ses disciples dans l'évangile de Jean quand il dira, et qu'il nous dit et qu'il nous rappelle pour chacun d'entre nous, souvenons-nous-en, je t'ai choisi, je t'ai établi, afin que tu portes du fruit. Ça, c'est une parole pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes peut-être pas vous destiné à devenir roi, mais en tous les cas, nous avons un sceau de royauté sur notre vie, tout autant que Saül. Nous avons été choisis par le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et le fait même que nous sommes, eh bien là, enfants d'un royaume, qui est le royaume de Dieu, nous connaissons notre position, où Dieu nous dit, où l'Esprit nous dit, je t'ai choisi, que personne d'entre nous. Parce que ça, c'est important de le savoir pour la suite des événements, de la vie de Saül, mais pour notre vie aussi. De savoir que Dieu nous a mis à part, que Dieu nous a consacrés, que Dieu nous a oints. Et si quelquefois nous avons des défaillances dans notre vie, souvenons-nous que Dieu nous dit « Je t'ai choisi, toi, et je t'ai établi. Mais maintenant, ce que j'attends, c'est que tu portes du fruit. » Nous allons progresser dans l'histoire de Samuel et nous allons tourner quelques pages et nous allons maintenant lire au chapitre 13. Chapitre 13 et au partir du verset 8, nous allons lire ce qui se passe ensuite. Dieu lui avait dit « Attends » par la bouche du prophète et je te dirai ce que tu as à faire. Il attendit 7 jours. Bien. Selon le terme fixé par Samuel, rien à dire. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce et misère. » Il offrit l'holocauste. comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva. Ça, c'est bien dommage. Vous permettez que je fasse des petits commentaires comme ça? Ça pigmente un peu la lecture. Samuel arriva et Saül sortit de devant de lui pour le saluer. Et regardez ce qu'il lui dit. Samuel lui dit, « Mais qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Bah, tu sais, hein, quand j'ai vu le peuple qui se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé, c'est pas vrai, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgad et je n'ai pas imploré l'Éternel, je n'ai pas prié. » On va voir ce que ça veut dire. « C'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. Et l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. » Un homme qui sera destiné à être le chef du peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Voilà, nous arrivons maintenant dans le vif du sujet. Il y a des contretemps qui sont fâcheux dans la vie. Ça vous est arrivé de rater un train? Ça peut arriver à certains, hein, on ne sait pas. Hein. Voyez, vous arrivez, vous voyez la petite lumière rouge qui disparaît comme ça dans le lointain. Vous n'avez plus qu'à attendre le prochain. Eh oui, et puis des choses comme ça qui arrivent dans la vie. Des choses qui sont regrettables, qui dépendent quelquefois de nos négligences, qui sont la conséquence de nos négligences, mais quelquefois ça ne dépend pas de nous. Et c'est un peu ce qui se passe, mais même quand il y a ce genre d'événement, je crois que Dieu est toujours dans l'affaire. Et vous savez, c'est particulièrement... Non pas parce que Dieu prend un plaisir pour que nous rations nos rendez-vous, mais c'est pour voir comment nous allons réagir dans ce genre d'événement. Il y a des gens qui vont pleurer. J'ai raté mon train. D'autres qui vont se mettre en colère. D'autres qui vont accuser, eh bien là, les agents de la SNCF. Enfin, je prends l'exemple du train. Vous restez pas là-dessus. Hein. D'autres qui diront, eh bien parce qu'il y avait des embouteillages, et parce que j'ai appelé le taxi, et puis il n'est pas arrivé à l'heure, et puis ceci et cela. On peut toujours trouver des choses comme cela. D'autres diront, bah oui, mais je me serais réveillé un peu plus tôt. Et puis j'aurais pris des précautions. Alors on peut voir tout cela. Vous avez remarqué avec moi, il est dit qu'il attendit 7 jours. Je dis, mais c'est bien, Saül. Tu as fait ce qu'on t'a demandé. Selon le terme que Samuel avait fixé, tout simplement, il pouvait se dire. Vous savez, ça me fait penser un petit peu, moi, à Jéricho, où là, il faut faire le tour pendant 7 fois. Pas 6 fois, pas 6 fois et demi. Pas 6 fois 45, hein. Par exemple, Naaman qui se trempe 7 fois aussi dans le Jourdain. C'était pas 5 fois, c'était pas 6 fois, c'était 7 fois. Et là, il attend quand même jusqu'au 7e jour. Mais il y a cette petite conjonction de coordination où il est dit « Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. » Pourquoi Samuel n'est-il pas arrivé à l'heure? C'est lui qui avait donné quand même l'ordre de la part de Dieu. Comment se fait-il que c'est lui qui commande et c'est lui qui se trouve être en défaut dans cette affaire? Il n'est pas en défaut. Mais il y a toute une suite de complications qui va être générées justement par cette affaire de retard. Il nous est dit que Samuel n'arrivait pas et que le peuple se dispersait de Saül. Vous vous rendez compte, une circonstance qui va se greffer, c'est que le peuple attend depuis 7 jours pour aller faire la guerre aux ennemis. Alors on commence à s'impatienter. On a un roi tout neuf, on veut l'essayer quand même. C'est le champ de bataille. On veut voir comment il se comporte, on veut voir comment il commande le roi. On veut le glorifier, on veut lui dire, eh bien nous avons coupé la tête à nos ennemis. Mais là, Saül est là au milieu de son peuple, on a bien astiqué les épées et puis les boucliers, et puis voilà que le temps passe. On est en train de... Enfin, j'allais regarder, non. On est en train de voir que le soleil est en train de tourner, et puis que ça ne va plus être l'heure de la guerre, et puis que bientôt on va arriver au 8e jour. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a une rumeur qui commence à monter. Les soldats s'impatientent, on commence à avoir des mouvements. Et puis, il y a des voix qui sont en train de s'élever dans les rangs de l'armée. Mais est-ce que vraiment c'est le roi? Est-ce que c'est... Mais qu'est-ce qu'il attend? Il n'a qu'à prendre une décision. Allez, on y va, on veut en découdre avec les Philistins. Et ça fait un bruit, un murmure. Et puis, il y a des fortes têtes qui commencent là parmi les officiers où on n'a pas tout à fait encore confiance dans ce nouveau roi. Alors on dit, ben on va rentrer chez nous maintenant, c'est pas la peine, c'est pas un roi, c'est pas notre roi, c'est pas lui. Parce que si c'était lui, eh bien il y a longtemps qu'on aurait battu déjà depuis le petit matin, eh bien nos ennemis. Mais vous avez remarqué que le texte nous dit, le peuple se dispersait, non pas loin du champ de bataille, mais loin de la personne de Saül. Et là, ça change beaucoup de choses. Dispersion du peuple. Et Saül... à ce moment-là, va avoir une idée qui n'est certainement pas la meilleure. Pauvre Saül. Et cela pour faire impression. Parce que s'il n'a pas pu prouver finalement son tempérament et de chef militaire, son caractère royal en tant que chef de l'armée, il va dire « moi je vais recourir maintenant à une fonction qui ne m'appartient pas parce qu'il n'est pas sacrificateur ». Mais il se dit « je vais y mettre du religieux dedans, je vais y mettre du spirituel, je vais toucher à quelque chose, alors ça va les impressionner ». Ça, je suis sûr que ça va les impressionner. Et ils vont revenir. Alors, Saül dit, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'Holocauste. Et ça, c'est la pierre d'achoppement. C'est le grain de sable qui va faire dérailler le train, en quelque sorte. Il tente une entreprise téméraire. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce sacrifice? C'est pas qu'il a certainement mal offert le sacrifice, mais c'est qu'il n'était pas habilité pour offrir le sacrifice et les holocaustes. Il était roi, mais il n'était pas sacrificateur. Et là, il s'est trompé dans son rôle. C'était Samuel. Et Samuel, vous l'avez lu, « Tu m'attendras 7 jours et j'offrirai le sacrifice et les holocaustes. » C'était lui, le prophète, qui devait le faire, et pas Saül. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce geste? Ce geste qui va avoir des conséquences terrible pour lui. Il y a tout simplement ce qui peut nous arriver aujourd'hui qui nous semble si peu grave, c'est l'impatience. Ouais. Ça vous est arrivé d'être impatient? Qui n'a jamais été impatient? Je ne veux pas lui demander de lever la main, il viendra me voir après le culte et puis on parlera. On va faire les choses bien comme ça dans l'intimité, s'il y a quelqu'un qui vient de me voir. Et les prétextes, parce que non seulement il y a de l'impatience, mais il y a aussi du prétexte. Et ce prétexte, c'est quoi? Comment on appelle ça? Je vous ai parlé d'un vice tout à l'heure. Oui, de la dissimulation. Désobéissance et dissimulation. Nous le trouvons quand il va tâcher d'expliquer. Mais lorsque j'ai vu le peuple qui se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas, c'est un reproche. Mais qu'est-ce que tu as fait, Samuel? Qu'est-ce que tu as traîné sur les routes, au temps fixé, et que les Philistins étaient assemblés donc sur le champ de bataille, je me suis dit. Eh bien non, c'est pas ça. C'est pas je me suis dit, mais il aurait dû penser, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Les Philistins vont descendre, je n'ai pas imploré l'Éternel, c'est alors que je me suis fait violence. Alors là, qu'est-ce que c'est, hein? Impatience, prétexte et dissimulation. Bon, il a dit une part de vérité, mais bon, tout ça, c'était... on va le deviner après, on va le voir. Hein. Mais c'est quand même quelque chose, hein, cette forme de raisonnement. Et voyez-vous, il s'est dit, je vais livrer bataille, mais je n'ai pas prié Dieu avant. Eh bien, ça ne sert à rien de prier si on est dans la désobéissance. Si on désobéit et qu'on dit, pour couvrir finalement notre désobéissance, je vais prier, c'est une forme de superstition. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous demande. Je dis, ce n'est pas la peine de prier. Laissez la prière tranquille. Ce n'est même pas la peine de vous tourner vers le ciel et vers le Seigneur pour dire, mais Seigneur, bénis. Puisque de toute façon, on ne peut pas être béni puisqu'on est en désobéissance comme Saül. Je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, tu sais. Hein. J'ai pris sur moi. Hein. Tu sais, il a fallu que, quand même... je me dis, ben mon garçon, il va falloir que tu montes sur l'autel et que tu fasses le sacrifice. Ouais, ça n'a pas dû être trop difficile. Hein. Excusez-moi, quand il parle de violence, là, il est juste à la limite. Hein. Et j'ai offert l'Holocauste. Et là, nous voyons que la sanction divine va tomber. Elle est terrible. C'est la destitution Il vient juste d'être roi, hein, pour cause de désobéissance, tout simplement. Alors, Samuel, le prophète, va lui dire, c'est avec beaucoup de regret, je pense que je sens cette parole comme des sanglots dans le cœur de Samuel, mais de dire, mais c'est tellement stupide de trébucher avec une si grande bénédiction au départ, avec un privilège immense, et de rater la première marche. Parce que c'est cela, en quelque sorte. L'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours. Mais vous avez imaginé une chose, c'est qu'on peut être en poste et en charge sans finalement, on peut se donner l'illusion d'être, et on l'est physiquement, mais on ne l'est plus dans le plan de Dieu. C'est ça ce qui est terrible. Et c'est vrai pour un roi. C'est vrai pour une responsabilité dans la vie. C'est vrai même peut-être pour une responsabilité dans l'Église. Où là, eh bien, ce n'est plus qu'une silhouette, ce n'est plus qu'une ombre. Hein, mais il n'y a plus la vie de l'Esprit. Et il était là, il a été là pendant 40 ans. Mais je peux vous dire qu'il en a fait voir à tout le monde. Entre autres, à son gendre. Hein. Le pauvre David, il en a vu toutes les couleurs. Hein. Mais pour David, ça a été l'occasion, lui, pour grandir dans la foi. Finalement, ses épreuves et ses tribulations. Il était roi, c'est vrai. Il s'est maintenu. Dieu n'a pas arrêté son règne comme ça. Mais il n'avait plus l'esprit, tout simplement. Et c'est ce que Dieu reprochera par la bouche du prophète Samuel, plus tard, au chapitre 15, quand il dira « Mais lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef d'Israël quand tu étais petit ?» Alors donc il s'est bien passé quelque chose le jour où il est devenu roi. Eh bien, il était plus petit à ses yeux. Comme on dit, il s'est pris la tête. Et l'orgueil, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, l'orgueil est arrivé, l'a complètement submergé. Et il ne voyait plus, parce que l'orgueil c'est quoi ? L'orgueil, il ne voyait plus que lui-même, c'est tout. Il n'y avait plus rien d'autre. Saül est un rétrograde à partir de ce moment-là. Le premier signe, je le rappelle, c'est l'impatience. C'est l'ego. C'est l'orgueil de sa personne, l'orgueil du pouvoir menacé. Et c'est vrai que son pouvoir va être menacé à plusieurs reprises. Non pas qu'on va le faire exprès, mais Dieu va permettre que son pouvoir soit menacé. Et à chaque fois que son pouvoir va être menacé, il va réagir, maintenant on va le voir, en meurtrier. Ça lui monte tellement à la tête qu'il va devenir extrêmement mauvais. On va tourner encore quelques pages. Dans 1 Samuel toujours, chapitre 16... Ou le titre que nous pourrions donner à ce paragraphe, c'est « Quand l'esprit se retire ». Chapitre 16, verset 14. Verset 14 jusqu'au verset 23, ce sera jusqu'à la fin du chapitre. « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Ça, c'est assez curieux. J'espère que ça ne trouble personne. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. » Donc les autres s'en sont aperçus. Hein. Pas seulement lui, mais les autres ont dit « Il y a quelque chose qui ne va pas chez Saül. » On le ressent, il n'est plus le même. Il avait un cœur changé, un esprit nouveau, mais là c'est plus ça du tout. Hein. Alors on va lui dire avec beaucoup de déférence « Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi et chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, bethléémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » Vous avez deviné qui c'est, hein ? Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Ah oui, ça c'est la première impression. Il faut se méfier quelquefois des premières impressions. Il plut beaucoup à Saül. Et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe, jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. On n'était pas encore au barbiturique à l'époque. On jouait de la harpe. Elle n'est pas là, Nelly, ce matin-là? avec sa harpe. On va l'embaucher. Eh oui. Quand l'Esprit de Dieu se retire, la première phrase que nous avons lue dans ce paragraphe, l'Esprit de Dieu se retira de Saül. Je crois que c'est une chose terrible quand on lit ça. Enfin, moi, je pense que ça me fait comme... Je suis effrayé, quelque part. C'est vrai, je le dis sincèrement. Je dis, l'Esprit de Dieu se retira de Saül. Un homme qui était dans le cœur de Dieu. Jésus nous raconte une petite parabole, enfin, qui n'est pas si petite que ça, mais qui nous montre bien l'occupation des mauvais esprits, parfois, dans le cœur des hommes, dans le cœur de ceux qui sont à l'extérieur et qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont habités, ils sont occupés par toutes sortes de choses, à travers des grossièretés, à travers des choses violentes, mais à travers aussi des choses très subtiles. Mais il y a derrière un esprit. Et puis il y a, hélas, ça ne devrait pas arriver dans le peuple de Dieu. Des hommes et des femmes qui peut-être ne sont plus au milieu de nous, de l'Église en général, et qui, aujourd'hui, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, n'ont plus l'Esprit de Dieu. On les appelle des rétrogrades, c'est vrai. Ce n'est pas un beau mot. Nous devons continuer à aimer ses frères et ses sœurs, c'est vrai, quoi qu'il en soit. Mais qui, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, n'ont plus l'Esprit de Dieu, et qui sont retombés, comme l'apôtre Pierre le dit, après avoir finalement été ornés et balayés. Connaissez la parabole de Jésus ? La maison qui est ornée et balayée. Une fois que le vide a été fait, comme nous l'avons vécu au moment de notre repentance et de notre conversion, où le Seigneur a nettoyé notre vie. Et il nous a donné l'Esprit, il nous a remplis du Saint-Esprit, il nous a baptisés du Saint-Esprit. Repentance, conversion, nouvelle naissance, un cœur changé, un esprit nouveau. Et à un moment ou à un autre, eh bien, on ne sait pas pourquoi, comment. Finalement, eh bien, là, par des circonstances qui nous ont amenés à nous retirer du Seigneur, qui nous ont entraînés, parce que nous l'avons voulu, nous avons été faibles, ou ils ont été faibles. À ce moment-là, eh bien, sont encore des hommes qui vivent, et qui vivront peut-être encore très longtemps sur la terre, ils ont encore un corps, ils ne sont pas... Hein, ils sont encore des hommes, mais où il n'y a plus l'Esprit de Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes. Et quelquefois, lorsque nous avons rencontré, moi ça m'est arrivé dans mon histoire, de rencontrer, hélas, des frères que nous avons beaucoup aimés. C'est vrai qu'ils ont été, je dirais plus que des frères, mais vraiment des amis, et que nous les avons retrouvés quelquefois, au moment de leur chute, des gens complètement métamorphosés, mais dans l'autre sens. Vindicatifs, méchants, critiquant l'œuvre de Dieu, critiquant la famille de Dieu, cherchant toujours quelque chose à redire. Et ça, c'est terrible. Ça fait pleurer, ça. Hein. Ça fait mal d'avoir connu une personne et de la voir se dégrader. Dégrader spirituellement, moralement. Et quand Jésus nous parle de cette maison ornée et balayée, c'est que le Saint-Esprit est passé. Ces gens ont été véritablement refaits. En quelque sorte, à l'image de Dieu. Et puis ils sont retournés après. Et c'est une parole qui est extrêmement dure, je veux le citer, mais c'est biblique, hein, mais comme la truie va se vautrer dans la boue après avoir été lavée, comme le chien va manger son vomi. C'est terrible, hein, ça c'est la Bible qui le dit. Hein. J'ai peine à le dire. Mais quelquefois, c'est hélas ce que nous avons constaté. Et puis, ça peut arriver à tous les échelons, hein, finalement, de la vie de l'Église, je veux dire. C'est arrivé à des pasteurs aussi. La maison balayée et ornée. Parce que, vous savez, quand le Seigneur fait le nettoyage, il faut qu'après la maison soit occupée. Et qu'elle soit densément occupée. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Par la vie de Dieu en nous. C'est pour ça qu'il nous baptise du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons besoin d'entretenir notre vie spirituelle. C'est pour ça que nous avons besoin de nous imprégner de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir une vie de communion avec le Seigneur et une relation intense. Parce qu'autrement, le diable est toujours à la porte pour essayer de rentrer dans notre cœur. Et à ce moment-là, s'il y arrive à chasser finalement ce qui était rempli et ce qui est pur et ce qui est saint, alors nous rétrogradons. C'est ce qui se passe pour Saül. Nous voyons qu'à ce moment-là, eh bien, alors que le roi Saül est transporté par des mauvais esprits, je ne sais pas sous quelle forme ça se... Il est dit qu'il était agité par des mauvais esprits et que ça venait de Dieu. C'est terrible. Mais je crois que Dieu ne prend pas plaisir à faire ce qu'il a fait avec un homme qu'il avait béni auparavant. Moi, je crois que Saül avait laissé des brèches. Il avait ouvert des entailles immenses. Il avait des fissures dans sa vie. Et le diable, c'est pour ça qu'il est dit venant de Dieu. Et il n'a pas combattu cela. Il n'a pas résisté à cela. Alors, je ne sais pas sous quelle forme. Je suppose qu'on va le voir tout à l'heure, mais certainement dans des emportements. Hein, agité. Agité, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est agité. Quelqu'un qui ne tient pas en place. Quelqu'un qui court, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui, là, et bouscule les autres. Quelqu'un qui véritablement a un comportement qui n'est pas normal. Surtout un roi, ça doit être posé un roi. Hein, on lui a donné un trône. Un trône, c'est déjà quand même pas mal. Et on s'aperçoit que ses serviteurs s'en aperçoivent. C'est qu'ils ont dû certainement plus d'une fois se faire, comme on dit, houspiller. Hein. Et peut-être avec des sanctions très graves. Et quelqu'un vient lui dire, « Mais tu sais, si on te joue de la flûte ou de la harpe, comme quoi hein, la musique adoucit les mœurs, connaissez, non? C'est pas biblique, ça, non? Non, il faudrait que je vérifie. Mais je crois pas. Alors, deux géants vont se rencontrer à ce moment-là. Il y a le roi qui est en place, parce qu'il faut compter quelques temps après, hein, les premiers éléments que nous avons donnés. Il y a le roi qui est en place, mais qu'un roi qui est finalement, eh bien là, s'illusionne sur sa royauté et sur sa vie, finalement, sa vie spirituelle. Il y a l'homme tombé et l'homme spirituel. Il y a David qui arrive, l'homme spirituel. Il n'a pas toujours été spirituel, mais il est resté spirituel, David. Il y a l'homme déchu et l'homme régénéré. L'un va remplacer l'autre. Mais quel prix pour David avant d'accéder au lui, à son tour, au trône? Il faudra attendre. Vous vous rendez compte tout le temps qu'il faudra attendre? Ça, c'est une autre étape que nous dit ce chapitre 16, autre étape de l'état de Saül, l'agitation. Moi, j'ai vu des frères et des sœurs dans l'église qui ont touché à des choses qu'il ne fallait pas qu'ils touchent. Ouais. Et je ne parle pas seulement des choses charnelles, mais particulièrement des choses spirituelles. Ils ont été mettre le nez où il ne fallait pas. Ils ont été se faire tripoter alors qu'ils auraient dû se faire garder purs. Par un pseudo-évangélisme ou prophète évangélique. Et ils sont revenus, ils ont reçu quelque chose. Ça, je peux le dire. Ils ont assurément reçu quelque chose. Mais ils se sont trimballés aussi. Quelque chose qui les a changés et qui les a agités. Des hommes et des femmes qui auparavant, auxquels on pouvait rendre un bon témoignage de sobriété, de réserve, d'équilibre, et à partir du moment où ils ont été là, où ils n'auraient jamais dû mettre les pieds, eh ben on les a vus s'agiter, on les a vus gesticuler, on les a vus gesticuler aussi de la langue, si vous comprenez ce que ça veut dire. Ouais. Un jour, il y a un jeune homme qui disait dans... Ah, c'est pas ici, hein. Qui disait, eh bien, depuis que je suis allé voir ce certain prophète, la première chose que j'ai rencontrée, c'est que je me suis aperçu, c'est tous les défauts de mon église. Ah, je me dis, si c'était pour ça. La première chose que je me suis aperçu quand je suis allé voir dans ce contexte, là, j'ai eu les yeux ouverts sur tous les défauts de mon église. Mais je me dis, mais là, on est où? Où est l'amour? Parce que l'église a des défauts. Ça, c'est certain. C'est terrible, hein? Je crois que Saül a laissé l'intrusion de mauvais esprits. Et le vecteur, c'était la colère. Alors écoutez bien, mes frères et sœurs, on va arriver à un autre sujet là, la colère, nos colères. Je pense qu'on se met parfois en colère. Il nous est dit que votre colère ne se couche pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. On peut tous se mettre en colère, il y a des choses qui nous déplaisent. Mais à partir du moment où nous sommes dans, non pas des comment dire, alors, des chutes, ou des accès comme ça que nous pouvons avoir temporairement et nous nous reprenons. Mais quand il s'agit dans notre cœur d'un état de colère, et que nous sommes collus pour être colériques, je crois que le Seigneur nous dit ce matin, attention. Attention. Parce que la colère est une brèche par laquelle le diable va rentrer, et avec la colère, il va tout casser. Il va casser toutes les choses qui sont autour de vous. Il va casser tous les êtres qui sont autour de vous. Et en dernier lieu, c'est vous qui serez cassé. Je crois que la colère est un péché. Et quand il est question d'agitation, je pense que c'était un homme qui était devenu, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, oui, ce que je dis, était devenu finalement irascible, exigeant, dictateur, tyrannique, parce que tout était ramené à sa petite personne. Et je crois que là, nous avons vraiment besoin de pleurer sur ce péché. C'est terrible. C'est terrible que des couples ont volé en éclats à cause de la colère. C'est terrible que quelquefois, eh bien là, dans les églises, il y a eu des divisions à cause de la colère de certains. Et je pense qu'il nous faut vraiment faire très attention, parce que nous sommes à ce moment-là. Si nous n'y veillons pas, si nous nous reprenons, d'accord, mais si nous ne nous reprenons pas, il y en a un qui nous attend et il va nous emporter avec lui. Il va nous emporter, je le dis ce matin, parce que le Seigneur m'a demandé de vous le dire. Il y a des choses où il faut faire attention. On peut tous avoir des indignations, on peut tous avoir des colères, on se met quelquefois dans des états, hein, parce que des choses ne vont pas. Bon, ça, d'accord, parce que ça fait partie de notre humanité, et Jésus aussi s'est mis en colère. Mais lui, c'était une colère sainte. Mais à partir du moment où nous sommes dans un état où véritablement, nous, il y a quelquefois, parfois, c'est certain, c'est cyclique la colère. Ça revient à un certain moment, et puis là, on ne fait pas attention, on passe les barrières, mais on fait beaucoup de mal, hein. Et l'histoire de Saül est bien pour nous montrer, attention à la colère. Attention, repentons-nous, demandons au Seigneur qui nous donne la maîtrise de nous-mêmes. Si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, à ce moment-là, il y a un don, un fruit du Saint-Esprit qui s'appelle la maîtrise de soi-même, la tempérance. Mais le Seigneur va nous aider, frères et sœurs. Moi, je le dis que le Seigneur va nous donner un coup de main dans cela. Si nous en prenons conscience et que nous disons, mais Seigneur, je suis soupaulé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça déborde. Bon, c'est comme ça, on a des tempéraments qui sont comme ça quelquefois. Mais à partir de dire, mais Seigneur, aide-moi à surmonter ce problème. Mais est-ce que vous croyez que le Seigneur va vous laisser tomber? Il va vous aider, frères et sœurs. Et moi, je vous le dis pour vous encourager. Il va vous aider. Mais il faut que vous en preniez conscience. Il faut que vous demandiez à Dieu son aide. Mais pas de laisser les choses couler comme ça. La colère est quelque chose de terrible. Allez, on continue. On ne va pas rester sur notre colère. Chapitre 18 maintenant. Ça va, vous suivez quand même? C'est bien, ça va? Vous ne m'en voulez pas de vous avoir dit tout ça, de vous dire tout ça, hein? Parce que moi je ne vise personne, hein? Je vous dis ça parce que bon, le Seigneur m'a mis à cœur, hein, depuis le début de semaine, de parler de cette manière, mais je ne vise personne, hein? Franchement. On est là pour nous aider et pour nous aimer, frères et sœurs, je tiens à le dire. Chapitre 18, verset 5. Alors, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Ah, il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Et on continue. Comme il revenait lors du retour de David au après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, et en poussant des grands cris. Écoutez bien. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, une chorale magnifique, et disaient « Saül a frappé ses 1000, et je vous dis pas, hein, et David ses 10 000. » C'était pas fait pour arranger les choses. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül qui eut des accès de délire. Ah tiens, une petite nuance. Au milieu de la maison, David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa main, disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi ». Mais David se détourna de lui deux fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Vous voyez la différence? Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef des 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de David. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. La bénédiction de Dieu est sur ceux qui lui obéissent. Voilà. Ceux qui lui obéissent, David est un homme qui obéit à Dieu. Et il y a quelque chose d'assez cocasse, hein, si ce n'était pas aussi tragique. Ça serait cocasse, c'est vrai. Ça prêterait à rire ou à sourire, si ce n'était pas aussi tragique. La réussite de David, qui va l'amener à être chef de l'armée. Et vous avez remarqué, nous avons lu dans le premier, dans cette première partie du paragraphe, « Il plaisait à tout le peuple », et à la fin, il nous est dit qu'il était aimé de tout Israël et de Juda. Il n'avait jamais cessé, finalement, dans le cœur d'Israël, de s'élever. Mais parce que Dieu le voulait. Il n'était pas roi, mais il était aimé plus que le roi. Et ça, ça laisse penser beaucoup de choses. Ça laisse penser beaucoup de choses parce que je crois que le monde est en quête d'amour. Ouais. David était comme normalement, lui. Hein. On l'aimait, tout simplement. Parce que Dieu avait mis dans le cœur du peuple d'aimer David. Et Saül, qui aurait tellement voulu être aimé, n'était plus aimé. Parce que Dieu avait retiré l'amour du cœur du peuple. Et ça n'a pas arrangé les choses. Pourquoi ? La grande différence, c'est qu'il y en a un qui était dans la désobéissance et l'autre dans la désobéissance. On peut l'expliquer de cette manière. Mais voyez cette popularité, voyez cet enthousiasme. À chaque fois que David partait et il revenait, jusqu'au jour là, eh bien, il y a eu une grande victoire et on a composé un petit cantique. Je ne sais pas, on ne le chante pas, ça, c'est pas dans nos répertoires. Hein ? Ça serait peut-être à écrire, je ne sais pas. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Je peux vous dire que ça a été quand même quelque chose qui n'a pas plu, parce qu'il nous est dit qu'à ce moment-là, il a été très irrité, le roi, et que cela lui a déplu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est dit, mais alors, il ne lui manque plus que maintenant, eh bien, il me mette dehors, il fasse une conspiration. Mais ce n'était pas dans l'esprit de David de faire une conspiration. David était un homme déférent par rapport à son roi, qui était en plus son beau-père. Mais le roi, lui, ne le voyait pas de cette manière. Il se disait, mais il me fait de l'ombre. Ah. Est-ce que ça vous dérange quand quelqu'un vous fait de l'ombre? La question est là. Hein. On va dire le mot tout à l'heure. Comment ça s'appelle, ça? Est-ce que quelquefois, inconsciemment, vous avez fait de l'ombre à quelqu'un? Vous savez, hein, il y a des petits arbres qui poussent à côté des grands, et puis à un moment donné, ils deviennent plus grands que les grands. Hein. Faire de l'ombre. Et à partir de ce jour-là, eh bien, il y a eu une véritable haine. C'était pas seulement un déplaisir, parce qu'on va le voir, pas seulement une irritation. Regardez d'un mauvais œil. Je ne sais pas comment il y a un bon et un mauvais. On dit des expressions. Vous savez, dans notre langue, c'est formidable. Moi, j'aime bien la linguistique, parce que c'est, enfin, le langage, le vocabulaire, parce qu'il y a des choses qui sont des perles. On ne s'arrête pas assez sur les mots, quelquefois, pour... hein, et quand il y a des expressions qui montrent bien, qui disent bien ce que ça veut dire. Et puis le lendemain de cette belle chanson, parce qu'on peut dire ça, après avoir entendu, il a dû l'entendre, il l'aurait entendu, hein, il ne devait pas endormir la nuit, le roi. Hein. Ça, il ne pouvait pas arriver, il avait là un problème d'estomac. Le mauvais esprit est venu sur lui, et alors qu'on est venu chercher David pour lui jouer de la musique pour l'apaiser, mais là ça ne l'a pas apaisé du tout. Il avait une lance à la main, le roi, il s'est dit, tiens, mon garçon, quand tu vas être auprès de tel endroit... Et il se tenait comme ça. Alors, c'était de la dissimulation. Hein, c'était du... Il disait, tu vois, alors la lampe, elle était certainement comme ça. Elle va être comme ça bientôt. Hein, et elle va être à travers ton cœur. Parce que quand on veut se débarrasser de quelqu'un, hein, qu'est-ce que vous voulez? Où en était rendu, hein, notre brave roi d'Israël? Popularité et jalousie. Jalousie. Jalousie quand tu nous tiens. Est-ce que ça peut exister dans le peuple de Dieu, de la jalousie? Ne me répondez pas. Ouais. C'est terrible. La Bible nous dit que c'est la carie des os. Ouais. C'est un cancer. Frères et sœurs, il peut arriver que nous ayons des pincements au cœur. Mais ne laissez pas ces pincements prendre la dimension de la jalousie. C'est terrible. Et je dis que c'est une porte grande ouverte pour l'adversaire. La jalousie, c'est affreux. Ça fait un mal dont on ne peut pas s'imaginer les conséquences, dans les couples, dans les familles, dans les entreprises, et hélas, dans les églises. Ça, ce sont des choses qu'il faut qu'elles soient réglées. C'est comme la colère. C'est quelque chose qui ne va pas aux yeux de Dieu. Je dois avouer, je suis jaloux par rapport à celui ou à celle-ci, à celui-là ou à celle-là. Mais Seigneur, aide-moi à ne plus être jaloux. C'est mon tempérament, j'ai cette tendance. Mais délivre-moi de moi-même, de peur de ne pas perdre ton bon esprit. Parce que c'est ça. Parce que quand on est jaloux, on n'a pas un bon esprit. Je vois celui que je jalouse. Ouais, bon, il ne m'a pas dit bonjour ce matin. Il y a certainement quelque chose. Et puis, il s'est acheté une nouvelle voiture. C'est pas normal. Et puis, il a ceci et cela. Aïe, aïe, aïe. Et puis, finalement, le pasteur l'a salué ce matin. Bah, je salue tout le monde, hein. Et si j'en oublie, c'est que j'ai oublié, tout simplement. Il a salué celui-ci, mais pas l'autre. Écoutez, frères et sœurs, on ne peut pas fonctionner de cette manière. C'est pas possible. On est aimé du Seigneur, on doit s'aimer les uns les autres, sans différenciation. Et la jalousie, elle doit être à la porte. Vous êtes d'accord? Ouais. À la porte, la jalousie. C'est un mal, c'est vicieux, c'est rampant, c'est destructeur. C'est un vice. C'est quelque chose qui est mauvais. La jalousie dort. Elle ne doit pas avoir droit de cité dans nos cœurs, dans nos pensées. Je me permets d'insister, hein, parce que c'est quand même un cancer au milieu du peuple de Dieu. Alors il a été jaloux, notre brave Saül. Quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on ne peut plus être jaloux. Ou même si quelquefois on a des pointes comme ça, ben, c'est l'Esprit de Dieu qui va combler tout ça, qui va combler la mesure. Et puis, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ouais. Seigneur, délivre-moi. Alors, on parlera de l'adultère, on parlera du vol, on parlera de ceci et cela. Mais il y a des péchés qui sont aussi graves. Et des péchés, je dirais, qui sont encore beaucoup plus graves. Ouais. Alors, il est jaloux. À tel point que Saül craignait la présence de David. Parce qu'il avait, il n'était pas complètement fou, Saül. Parce que regardez ce que nous dit le texte. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et il s'était retiré de lui. C'était une jalousie spirituelle. Parce que s'il existe une jalousie matérielle pour les choses matérielles, sur finalement ce que nous pouvons avoir dans notre personnalité, je crois que la plus terrible de toutes, c'est la jalousie spirituelle. Il fait ceci, il fait cela, et puis ben, finalement, eh bien, parce que c'est en rapport avec l'œuvre de Dieu. Ça, non, il ne faut pas. Je vous le dis, il ne faut pas, frères et sœurs. On ne peut pas attirer la bénédiction. On ne peut pas avoir l'assentiment et on ne peut pas conserver l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Il réussissait. L'Éternel était avec lui. Et il nous est dit que, voyant qu'il réussissait toujours, il avait peur de lui. Il avait peur de lui. Les brèches de la chair exploitées par l'ennemi. Une folie meurtrière, puisque au chapitre 28, il est dit ceci, à tel point que, versets 18 et 19, que je reprenne, c'est Dieu qui dit ça. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, Dieu qui dit ça à Saül, tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère, voici pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Ouais, la folie va amener finalement la catastrophe sur... En conclusion, je finis simplement. Saül, qui avait bien commencé avec l'Esprit de Dieu, va avoir une fin désastreuse. Et au chapitre 28, on peut le reprendre... Brièvement et simplement, ce qui s'est passé. Je lis le texte, verset 4 simplement. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. Voyez, les gens qui sont dans un état de comme Saül ont toujours des guerres. Ce sont des guerriers, mais ils ont toujours des guerres. Et Dieu permettra toujours qu'il y ait des conflits et des guerres. Pas un homme de paix, bon, il a les guerres. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit rien. Ah oui. Ni par les songes, ni par l'urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, alors là il va franchir le Rubicon. Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Andorre, rien à voir avec les Pyrénées. Il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, je sais que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Ça voulait dire que Saül avait un roi qui avait évincé l'idolâtrie et la magie de son peuple, et c'est lui qui retourne en premier. Ah oui, c'est ce que le texte dit. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie et me faire mourir ? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel évident, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter ? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé ? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains pas, mais que vois-tu ? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il ? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et qui est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes. Ça m'est arrivé de connaître des situations, même chez les enfants de Dieu qui sont retournés au spiritisme et à la magie. C'est terrible. Je finis par cette prière, le psaume 51, verset 13. Ne me rejette pas loin de toi, de ta face, ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Ne me rejette pas de devant toi. Ne me retire pas ta sainte inspiration, nous dit un autre texte. Ne me retire pas ta sainte inspiration. Frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu, je le dis en conclusion. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons été choisis, nous avons été établis pour que nous portions des fruits et des bons fruits. Laissons-nous conduire et diriger par le Saint-Esprit et restons sous la bonne inspiration du Seigneur. De grâce, n'allons pas vendre notre héritage et la bénédiction de Dieu qui nous a donné pour un misérable plat de lentilles. Vous voyez ce que je veux dire ? Les uns et les autres, alors que la colère ne prenne pas le dessus sur nous, que l'impatience ne prenne pas le dessus sur nous, que la dissimulation ne prenne pas le pas sur notre vie, et que la jalousie n'ait pas le droit de citer au fond de nos cœurs et dans nos pensées, dans nos esprits. Ne retire pas ta sainte inspiration. Nous sommes sous l'inspiration de Dieu et nous ne pouvons pas à la fois dire « Merci Seigneur, je te glorifie, bénis mes frères et mes sœurs » et avoir des sentiments comme nous les avons vus ce matin. Commencer est une chose, finir en est une autre. Et moi de tout mon cœur, je vous souhaite, nous souhaitons les uns des autres d'aller jusqu'au bout du voyage en restant sous la dépendance du Saint-Esprit de Dieu. Dans la grâce de Dieu, il nous a donné sa bénédiction dès le départ. Gardons-la jusqu'à la fin. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que qui sommes-nous et qui étions-nous lorsque un jour tu es venu frapper à la porte de notre cœur et tu as dit à mes frères et mes sœurs, je te choisis, je t'établis, je veux que tu sois mon enfant, je veux que tu sois mon disciple, je veux que tu sois mon serviteur et ma servante. Alors Seigneur, pour certains, ce jour-là remonte à bien des années. Mais Seigneur, si nous avons pu cheminer, c'est parce que, eh bien, c'est encore ta grâce qui nous a tenus et qui nous a maintenus. Seigneur, tu sais que quand tu nous as choisis, tu ne nous as pas choisis parce que nous étions des saints et des anges. Mais tu nous as choisis parce que nous étions des pécheurs. Et nous avions notre tempérament, nous avions notre caractère. Nous avions, Seigneur, nos qualités, certes, mais nous avions aussi nos défauts. Et Seigneur, nous voulons te demander que dans les défauts, Seigneur, les défauts d'hier, qui ont peut-être subsisté pour certains jusqu'à aujourd'hui, tu nous montres encore une fois de plus que, eh bien, Père éternel, la sanctification n'est pas un acte magique, mais c'est l'engagement de notre volonté. Et de ne pas nous enferrer, Seigneur, dans notre égoïsme, dans notre ego, dans notre image de marque, dans, Seigneur, tout ce que nous pouvons dissimulé, Seigneur, d'une façon ou d'une autre. Mais lorsque tu nous as parlé ce matin sur nos intempérances, nos impatiences, sur parfois un fond de jalousie ou de colère, à travers, Père éternel, eh bien, Seigneur, toutes sortes de traits de notre caractère, parce que tu le sais, ça, tu le savais déjà depuis le départ et tu le sais encore aujourd'hui. Mais Seigneur, tu ne nous as pas appelés, Seigneur, pour que ces choses se développent, que la mauvaise graine, que les mauvaises racines, eh bien, se développent. Mais tu nous as appelés, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, pour faire mourir ces œuvres et ces brèches. Alors, Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que, tant que nous resterons petits à nos yeux, tant que nous resterons modestes, tant que nous ne nous prendrons pas pour ce que nous ne sommes pas, c'est vrai que nous avons des chances, Seigneur, de pouvoir continuer et continuer dans le bon sens. Continuer, Père éternel, dans la dépendance du Saint-Esprit, et tant que nous nous laisserons faire. Mais à partir du moment, Seigneur, où nous laissons posséder, parce que c'est le mot, posséder, dominer, parce que ce que nous connaissons bien, Seigneur, de nous-mêmes, et que les autres nous disent et que nous ne voulons pas croire, alors à ce moment-là, Seigneur, croyons, Père éternel, que nous ne sommes pas perdus, certes, mais nous sommes sur une mauvaise pente, qui peut nous amener plus loin que nous le pensons. Seigneur, je te demande de visiter mes frères et mes sœurs. Oui, Seigneur, visite-nous. Et je peux te dire, je peux te demander, Seigneur, à tous, fais-nous grâce, Seigneur, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et te dire comme David, Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ta sainte inspiration. Parce que nous savons, Seigneur, que commencer est une chose, finir, Seigneur, en est une autre. Et nous voulons être des hommes et des femmes qui allons jusqu'au bout et qui finissons ce qui a été commencé. Merci Seigneur, je voudrais simplement dire comme Jésus, dans la prière sacerdotale, eh bien, a pu le dire à son Père, « Je te loue, Père, de ce que j'ai achevé, ce que tu m'as demandé. » Merci Seigneur, merci Jésus. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et que Dieu vous donne sa grâce.